Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Ce podcast devrait sortir ce vendredi, si tout se passe bien. On l'enregistre le jeudi soir, alors que le podcast précédent vient d'être annulé pour faute grave. Flavie, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je vais revenir sur le terme faute grave parce que je suis pas d'accord.
Mais ah bon, t'es pas d'accord là-dessus ?
Ah, faute, non. Alors, j'explique pourquoi. J'explique
d'accord,
mon point.
Ça marche.
En fait, quand on a enregistré le podcast, on ne savait pas, parce que le nom n'a pas été changé sur le PDF.
Oui, c'était une erreur à ce moment-là.
En fait, et puis, on ne s'est pas renseigné sur l'auteur, qu'en fait, la personne dont on parlait avait changé de sexe.
C'est ça.
Et avait changé de nom aussi. Elle s'appelle Avery Alder maintenant.
Alder, tout à fait.
Et du coup, dans le podcast, on parlait d'Avery Alder avec son ancien nom.
C'est ça. Fait, on savait pas. On appelle un dead name.
Voilà, et on savait pas en fait qu'elle avait changé de nom, sinon on n'aurait pas fait ça. Et il se trouve que dans la communauté, c'est une grosse insulte.
Complètement.
Et on comprend parce qu'en fait, on parle d'elle en utilisant une identité qu'elle n'a plus. Donc, quand on en a parlé, on a dit qu'il faut supprimer le podcast. Mmh. Donc, mon point, quand je te dis que ce n'est pas une faute, c'est que nous, c'était une erreur.
C'était
en fait.
Erreur,
ouais. On ne savait pas ça. On ne savait pas qu'elle avait changé de nom entre-temps, etc. et de sexe.
T'as raison.
Et donc, du coup, on a supprimé le podcast. Ce qui aurait été une faute, c'est en sachant qu'il y a ce problème-là, de l'avoir laissé. Si on avait laissé le podcast en ligne, ça aurait été une faute parce que du coup, on aurait pu la blesser.
Ouais, je comprends pas. Moi, je le prends pour une faute personnelle parce que, enfin, quand même, on est censé, la cellule, être quand même bien connaisseur des jeux de rôle indépendants.
Attends, se connaître un jeu, ça veut pas dire forcément connaître la personne qui l'a fait. Surtout dans le jeu de rôle français, francophone, ok.
Ouais.
On se dit qu'on peut avoir été en contact avec les gens. Je suis désolée, moi, j'ai pas assez d'argent pour aller régulièrement aux États-Unis. Moi, je connais pas, en fait, les auteurs américains. J'ai beau crier Vincent Baker régulièrement. Je connais pas.
C'est une canadienne.
Voilà, non mais tu vois, je dis
maintenant je suis expert.
Je crie Vincent Baker, mais c'est pas pour ça que je connais la vie de cette personne, j'ai juste joué à certains de ses jeux, donc voilà, pour Avery Alder, c'est pareil. Et il se trouve que on s'était pas renseigné parce qu'en plus il y avait marqué son ancien nom sur le jeu, donc voilà.
Alors ce qu'il faut savoir quand même, on peut le dire, c'est que Avery Alder avant de se marier était Avery McDalno. Pour que les gens comprennent, fassent le lien. Maintenant, en entendant McDalno, du coup, évidemment, ça vous rappelle plein de jeux qui ont été édités par la boîte à eux et compagnie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Avery Alder, donc anciennement McDalno, devenu Alder suite à son mariage, a demandé, ou en tout cas a fait en sorte que tous ces jeux, qu'ils soient en PDF, disponibles sur Internet et compagnie, soient modifiés du point de vue de son patronyme. C'est-à-dire que McDalno disparaisse finalement et pour que Avery Alder apparaisse. Donc ça veut dire vraiment que c'est une volonté de sa part. Et donc nous, si on avait laissé le podcast en ligne, on aurait fait jeu contre cette volonté. Parce qu'au final, on aurait laissé en ligne un podcast bien diffusé. Hein. Vous savez que maintenant, la cellule, c'est quand même quasiment 500 personnes qui le téléchargent au premier jour. Donc, on aurait laissé en fait un faux nom, en fait, finalement, circuler.
Qui attaque l'identité personnelle de cette dame-là, finalement. Et
tout
donc,
à fait,
du coup,
complètement.
Pour nous, c'était impensable.
C'était une attaque à dominer.
Là où on a décidé aussi de faire ce petit podcast pour expliquer, c'est que il y a des gens qui ne comprenaient pas et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même expliquer le truc parce que c'est quand même important que les gens sachent.
Alors, la plupart des gens qui sont informés du problème le comprennent. Ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ceux qui débarquent et puis hop, ils arrivent sur la page de la cellule ou sur la page du podcast ou sur Facebook ou sur Twitter et puis paf, il y a un message de Romaric Briand qui dit « podcast supprimé, mes sincères excuses et compagnie ». Donc forcément, je comprends qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on enregistre ce petit podcast pour vous expliquer. Donc, et puis ça permet aussi, mine de rien, ce podcast de faire un peu de pédagogie à ce sujet, de se dire d'apprendre en fait ce que c'est qu'un dead name.
Et j'aimerais alors maintenant faire un petit point, il sera entendu ou pas. Nous, on a l'honnêteté de dire « on s'est trompé, donc on supprime ». S'il était possible que du coup, Maître Signe comprenne que cette personne, du coup, a changé d'identité.
Pour préciser, donc, le PDF avec lequel on a joué, a été téléchargé sur le site 500 nuances de geek, qui est donc le site qui appartient à Maître Signe, le propriétaire de narrativiste.eu. La traduction à laquelle on a eu accès est une traduction de Pierre Gavard-Coleni. Dans cette traduction, l'ancien patronyme d'Avery Alder figure. Alors, c'est ça, toi, que tu trouves. C'est qu'en fait, ça devrait être
ça
retiré.
Ça devrait être changé. Alors, bon, bah, je veux bien croire, pas comme nous, je veux bien... Voilà. Ça se trouve, il n'était pas au courant, Maître Cine. Maintenant, tu l'es. Je peux peut-être te vouvoyer. Maintenant, vous l'êtes, Maître Cine.
Bah, tu peux les vouvoyer tous les deux. Pierre Gavard Coligny, qui rend sa traduction, peut aussi demander à Maître Cine de faire ce qu'il faut,
mais
de supprimer ce PDF.
Maintenant, on vous prévient. Donc, s'il vous plaît, bah, changez ce qu'il faut changer dans le PDF. Quoi.
Pour autant, l'idée n'est pas de renvoyer la faute et l'erreur.
Non, on aurait dû se. Mais
assure 500 nuances de geek.
On ne renvoie pas. Écoute bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était leur faute. On prend notre responsabilité. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Maintenant, on le prend publiquement aussi
tout
pour que d'autres personnes ne puissent ne pas faire l'erreur.
Je voudrais aussi faire des excuses sincères de ma part et de celle de la tienne et de celle de Tommy aussi. On aurait quand même dû, c'est vrai, se renseigner sur l'auteur. Et c'est d'autant plus, important que. On l'a bien senti quand même à un moment donné dans le jeu, on en a parlé dans le podcast, que c'était un jeu d'auteur, qu'elle abordait des problématiques qui la concernaient, tu vois, en propre vraiment. Tu vois, il y a quelque chose qui touchait l'intime. Non. Non,
oui,
pour
je
toi,
sais,
non.
C'est pas le problème, c'est que ces dernières années, en fait, je partais du principe que je testais des jeux. Et que du coup, je me renseignais pas sur la vie de l'auteur et que ça me faisait presque plaisir en fait de découvrir qui était l'auteur par le jeu et d'aller me renseigner ensuite sur la personne pour savoir si j'avais eu raison ou faux en testant. Tu vois ce que je veux dire ?
Ok. Alors là, je suis d'accord pour toi, c'est vrai. C'est-à-dire parce que toi, tu es à la cellule, tu es co-directrice du podcast et compagnie et c'est
mais
pour
ça
que tu es là
sur mon
avec
temps
moi.
Libre.
Mais tu fais ça sur ton temps libre. Moi, c'est mon métier. Théoriquement, il y a eu plein d'actus sur Avery Alder depuis des années.
Ouais, t'as jamais
Monster...
fait le lien, quoi.
Exactement. Non, alors attends, faut expliquer ça parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que non, j'ai jamais fait le lien.
Le pire, c'est que tu m'as parlé de Monster Heart cet été.
Oui, bien sûr. Mais c'est un truc de fou. Et en fait, je me disais, mais c'est dingue. En plus, je t'avais dit, ouais, c'est dingue, ce jeu, il est super connu, mais je me demande qui l'a écrit parce que je connais pas du tout son auteur, etc. Enfin bon, bref. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je suis passé à côté de ça ? Moi, j'aimerais bien me justifier un peu. Je sais que ça se fait pas trop en général, mais j'aimerais bien le faire quand même. C'est que, comme vous le savez, moi, je n'aime pas les jeux dans lesquels on est en posture d'auteur, dans lesquels on a une position d'auteur et dans lesquels on ne plaide pas pour un personnage.
Et dans les anciens jeux d'Avery Alder, c'était le cas.
J'aime pas, exactement. Et j'aime pas non plus ces jeux dans lesquels les mécaniques tournent seules et où on a l'impression que la fiction est finalement accessoire. Je n'aime pas non plus ces jeux qui nous mettent dans des positions où on nous dit « racontez ceci, racontez cela ». J'ai eu l'occasion de l'écrire dans le Maelstrom, j'ai écrit un article là-dessus et dans ma réponse à Coralie, j'en ai parlé. À l'époque, j'appelais ça des « machines à saucisses ». Terme qu'aujourd'hui je récuse, c'est aujourd'hui un terme que je récuse complètement et que je ne veux plus employer. Pour autant, vous avez compris, je pense, chers auditeurs, le principe. Donc, les jeux d'Avery Alder, eh bien, ma foi, je m'en étais toujours tenu très à l'écart. Et quand je vous dis très à l'écart, c'est que du coup, je ne m'étais pas du tout renseigné sur sa carrière, je ne m'étais pas du tout renseigné sur sa vie, ni sur les prochains jeux qu'elle avait fait, pas du tout, du tout. Et ce jour-là, le jour du podcast, qu'on a donc enregistré, il y a un ancien ami, un pote de Cédric, donc Carsao, qui intervient très très souvent sur les podcasts de la cellule, qui débarque. Donc c'est un vieux pote, parce qu'on le connaît depuis qu'on a fait notre étude à la fac, Tommy.
Il faut commencer à ne plus dire les années.
Il débarque et il nous dit, écoute, Romaric, Flavie, je sais que vous aimez pas ce genre de jeu en général, mais je pense que là, bah, vous allez kiffer. Donc il arrive avec The Quieter. Et il nous dit, voilà, ça commence comme ça, il nous dit, je sais que vous n'aimez pas les jeux de cet auteur. Cette autrice, à ce moment-là, il dit cet auteur, ce qu'il ne sait pas. Donc, cette autrice. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous faire triper. Parce que nous, ça a super bien marché. Et il commence à nous raconter sa partie. On se dit, ah ouais, ça a l'air cool. Et il met notamment en place cette histoire de tension entre la posture d'auteur et le moment où on a envie de plaider pour les personnages. Et ça met l'eau à la bouche direct. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Faye. Quand il commence à nous parler du jeu.
Ah, moi, c'est pas ça qui me. Mais
Vas-y.
Non, mais parce que là, t'étais dans le fait de te justifier. Donc, du coup.
Non, là, ça y est, j'ai arrêté.
Ah, ça y est, donc là, juste... on passe à autre chose.
On va parler du podcast.
D'accord.
On va parler de The Quieter, plus exactement. Parce que, tu vois, en fait, je me justifie en
je
disant.
Je savais
voilà,
plus où j'étais.
Je m'étais tenu à l'écart très longtemps. Donc, d'où le fait que j'ai fait l'erreur, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, Tommy arrive et il nous dit bah, allez, on va remettre en question tout ça.
Et du coup, là, on va vous expliquer un peu en substance ce qu'il y avait dans le podcast.
Non, on va expliquer ce qu'il y a dans The Quieter. On va faire le podcast. On refait le podcast, chère Flavie, en plus court. Hein, je te rassure.
Ce que
non, mais on va résumer les grandes idées, mais que les auditeurs aient quand même accès au contenu du podcast.
Ah, moi, ce qui m'avait mis l'eau à la bouche, c'était pas ça. C'était moi, j'aime bien en fait les jeux que t'aimes pas. Enfin, moi, je suis un peu capable de jouer à tout, hein, donc c'est un peu mon avantage.
Mais tout à fait.
Et du coup, moi, l'idée de créer une histoire dans un espace avec une... Moi, c'est les mots... Dans un lieu où la civilisation vient de s'effondrer. Et il faut reconstruire.
Tu peux te retrouver les termes
exacts. Et moi, l'idée de reconstruire après une civilisation... Dans la première image, en plus, c'était une image d'un homme en face d'un moulin, etc. Moi, je suis déjà partie extrêmement loin. Moi, je suis après la chute de Rome, je suis après tout ça, on découvre le moulin. En tout cas. Moi, je suis partie très loin. Et du coup, je regarde Tommy, je fais « Ah, d'accord, ok. » En plus, Tommy, on le connaît depuis longtemps, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Mais Tommy, je sais qu'il a fait les Beaux-Arts, je sais qu'à l'époque, on a pas mal parlé esthétique et je sais qu'on a pas mal de notions esthétiques en commun avec Tommy. Et je me dis... Je vais faire un truc de fou avec lui, on va triper comme des cochons. Donc du coup, je me suis dit, ok, on y va, quoi.
Donc en fait, voilà, c'est ça, exactement. Donc on est tous motivés à bloc. Moi, je suis super heureux d'avoir tort, c'est-à-dire, comme d'habitude, on me dit, ouais, tu vas voir l'auteur en question, donc Avery Adler, tu vas voir, c'est... Enfin, je vais dire Adler très souvent, hein, vous m'en voulez pas, c'est Alder, donc voilà.
Et puis à ce moment-là, je rappelle qu'on sait pas qui c'est.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Donc, moi, je suis à bloc, je suis en mode, ouais, ça va être trop cool, quoi. Enfin, un de ces jeux auxquels je vais pouvoir jouer avec grand plaisir. Donc, du coup, je demande à Tommy, mais qu'est-ce qui fait cette tension, quoi? Qu'est-ce qu'on joue? Et là, il commence à nous lire la base, donc la traduction française de 500 nuances de geek, qu'il a récupéré par hasard sur le net. Donc lui aussi n'est pas du tout instruit de l'histoire du jeu. Il ne sait même pas d'ailleurs qui est l'auteur. Hein. Je me souviens qu'il ne savait même pas sa nationalité et compagnie. Hein. Il en avait juste entendu vaguement parler sur la cellule auparavant et voilà. Et il nous dit que l'on va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation. On va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation. Et ce qui est précisé dans le PDF, c'est qu'on joue des êtres, des voix, autour d'une carte, qui sommes à moitié omniscients, à moitié des dieux. Je vous invite à lire hein, le PDF disponible sur 500 nuances de geek. Et en fait, là, il y a un premier problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on joue, en fait.
Alors moi, le premier problème qui m'a fait... Alors... Avant qu'on en arrive là, on commence à voir ça. Et moi, je vois le premier problème arriver, c'est-à-dire qu'on est censé être des dieux qui regardons ces petites fourmis humaines vivre des choses.
Je compare ça à Wheelwright, SimCity.
Ouais.
Et
en même temps, après, il parle du fait qu'il faut créer des dilemmes sans prendre parti dans les dilemmes, sans en prendre part.
C'est ça.
Et moi, pour moi, un dilemme, bah, j'y prends forcément part. Or, je ne suis pas censée... En y prendre part, hein, c'est dit clairement dans la base. Et en plus, je suis censée regarder ça de haut, m'intéresser au courant de pensée et à des personnes qui vont être en bas. D'ailleurs, si on veut, on peut créer des noms. Mais je suis pas censée, je suis censée m'y intéresser, mais sans y prendre part. Il y a des dilemmes, mais en gros, je suis censée regarder ça de haut. Et moi, dans ma tête, ça a fait écran bleu. Ce qui était dommage parce que on a eu un super début de partie avec Tommy, mais vraiment un début de partie excellent. Bon, où Rome était déjà un peu à côté, mais parce que...
Je vais expliquer pourquoi.
Ouais. Mais du coup, la chute de la civilisation, on a imaginé une civilisation basée sur la lumière.
Ouais, tout à fait.
Avec des... C'était quoi ? Il fallait qu'on trouve des pénuries et de l'abondance. Rome, il a commencé à grogner en disant « Je vais pas créer ça d'ex nihilo. »
Pénurie de pastèques. Voilà, tellement.
Et c'était... du coup, nous, on s'est dit « Ah, du coup, on va être en pénurie de fruits et nous, on chercherait la lumière. » Et vraiment, on était partis loin avec Tommy. Et quand on a démarrer le jeu, et ben moi, écran bleu. Impossible de voir ce truc qui me plaisait à fond, une civilisation basée sur la lumière, et je suis pas censée y prendre part. Non, je pouvais pas. Et le deuxième truc qui m'a mis à côté, c'est qu'en fait, quand je peux le dire, oui, c'est ça, on n'avait pas le droit d'entrer en communication
avec les
autres.
On en parlera après, si ça te dérange pas. On continue sur le premier point que tu as abordé, puis tu continueras. Donc, j'ai un plan cette fois-ci, Flavie, tu crois? Mais non, parce que je veux être sûr qu'on n'oublie aucun élément du podcast. Je veux vraiment que les auditeurs aient accès à tout le podcast, même s'il a été par ailleurs supprimé. Donc,
il a un plan.
Il a un plan. Et donc, du coup, pourquoi ça me dérange, moi? Moi, je trouve ça complètement random. C'est d'ailleurs le mot que j'utilise dans le podcast, c'est random. C'est-à-dire qu'en gros, on me demande de créer des pénuries, mais je ne connais pas la civilisation. Je ne sais pas non plus quel est le propos du jeu, donc je ne vois pas quel genre de pénurie est intéressante. En fonction du propos, ça peut être intéressant de manquer d'une chose ou d'une autre. Si c'est un jeu survivaliste, ça va être de manquer d'eau, de manquer de nourriture. Si c'est un jeu, par exemple, sur les émotions et compagnie, ça va être de manquer d'affection, de manquer de... Voilà. Donc une pénurie, ça peut être une pénurie de tout et n'importe quoi. Et du coup, en fait, quand on me demande, bah, vas-y, crée une pénurie. Tu vois, on se retrouve dans ce problème de raconte quelque chose. De ex nihilo, et ben moi je sais pas parce que je vois pas ce qu'on me demande, enfin je comprends pas l'ordre en fait.
Ouais, et du coup dès le donc, début, toi tu t'es retrouvé de côté là où Tommy et moi on tripait comme des cochons. C'est les 20 premières minutes là où il faut créer le truc sur déjà, la carte et tout. C'était, moi j'ai trouvé ça trop bien.
Alors c'est vrai qu'un des autres propos du jeu, on en a pas parlé, mais c'est de dessiner une carte ensemble. Et ça c'est précisé cool. dans la traduction de 500 nuances de geek, c'est de dessiner une carte. C'est comme ça que c'est écrit. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Donc, du coup, moi, je trouve ça complètement random. Et du coup, moi, les choses qui sont random, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je trouve ça absurde. Et donc, du coup, quand c'est absurde, bah, je dis n'importe quoi, je fais de la merde et je fais des absurdités. Puisque... Donc, le but, du coup, moi, c'est de m'amuser en disant des trucs débiles et voilà. Pourtant, à un moment donné, je réalise quand même que les pastèques et tout, ça commence à bien faire. Donc, je commence à rentrer dans votre jeu. Et vraiment à essayer de jouer avec vous et tout ça. Et là, je commence à faire des efforts un peu en me disant « Non, non, il faut vraiment que j'essaye. » Et là, on rencontre un problème. Un problème lié au projet. En fait, dans le jeu, les joueurs posent sur la table des projets. Sur la carte, pardon, ils positionnent des projets.
Sous forme de dés.
Sous forme de dés. Et ça, je trouve ça d'ailleurs très élégant. Je le souligne dans le... Je le souligne aujourd'hui. C'est que, du coup, le fait de poser des problèmes sous forme de dés, ça les met au centre de la table, ça fait fixer l'attention autour. Un peu comme dans le jeu Prosopopée de Frédéric Sintès, par exemple. Et aussi, il y a un moment donné où, notamment, le problème, c'est un personnage qui doit se rendre d'un point A à un point B. Et j'avais trouvé très élégant le fait que Tommy, en fait, tu sais, il faisait évoluer le dé et chaque fois qu'il le faisait évoluer, il avançait sur la carte. Et donc, ça donnait, on visualisait de haut vraiment des situations et je trouvais ça très élégant. Sauf que, au moment de la résolution des projets.
Eh bien, il ne se passait rien.
Ben, il ne se passait rien et surtout, on ne savait pas, comment dire. Quelles étaient les conséquences ? Ouais, c'est ça, exactement.
Les conséquences, en fait, sont dites dedans. Elles sont forcément positives pour la communauté.
Exactement.
Sauf que. Ça pose quand même un problème moral parce que quel que soit le projet, c'est censé être positif.
Ils sont objectivement bons pour la communauté, mais certains membres de la communauté peuvent en subir des effets négatifs et donc en être mécontents. Voilà ce que nous dit la base. Donc les règles, donc la métaphysique du jeu nous dit que tout projet aboutit à des conséquences bonnes pour l'intégralité de la communauté, mais certains membres peuvent en subir des effets négatifs et se retrouver mécontents de ça. Et moi, ça me pose un problème moral, tout simplement. C'est-à-dire que, du coup, je pose la question, qu'en est-il de la bombe atomique utilisée sur Nagasaki et Hiroshima ?
Et d'ailleurs, en jeu, tu décides de créer une bombe atomique. Parce que tu es très énervé.
Ben, moi, ça m'énerve, ce genre de position. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en gros, le projet Manhattan... Était donc, si on prend, imaginons qu'on fasse un tel projet dans ce jeu, ça veut dire que le projet Manhattan, en fait, était objectivement bon pour l'humanité et que le fait que certaines personnes aient eu à subir ses conséquences, à savoir le Japon, les Japonais, Nagasaki, Hiroshima et compagnie, bah finalement, c'est pas grave parce que c'est objectivement bon. Enfin, il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans. Moi, je trouve pas ça moral, en fait, comme position. Alors, peut-être que c'est voulu par l'auteur de The Quiet Year. Justement, cette proposition est tenue de façon dérangeante, de façon à soulever des questions autour de ça.
Sauf que les questions qui sont soulevées, on ne va pas pouvoir les soulever. Parce que ce qui serait intéressant, vu que les questions sont soulevées pendant le jeu... Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse entrer en communication, en interaction, sauf que c'est interdit par les règles.
Exactement.
On ne doit pas entrer en communication, c'est chacun parle l'un après l'autre, Et on ne rentre pas en communication. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas d'accord avec un projet ou quelque chose qui se passe, on peut prendre des points de mépris.
Mépris pour le signaler autour de la table.
Mais en vrai, du coup, on ne va jamais pouvoir exprimer quoi que ce soit. Donc, si c'est le cas, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a un jeu qui dit « Ah, vous voyez, dans les communautés... » Et puis, je crois que c'est dit en plus dans le texte.
Tout à fait.
Dans les communautés, vous voyez, on n'arrive pas à se parler et ça finit toujours mal.
Des problèmes d'incommunicabilité entre les communautés.
Sauf que moi, j'aurais bien aimé, du coup, un jeu qui montre vraiment ces problèmes de communication en nous permettant de parler et en nous montrant que du coup, même quand on parle, les choses n'avancent pas. Parce qu'en vrai, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un jeu qui dit, eh ben, vous pouvez pas vous parler. Eh ben, vous voyez, on n'arrive pas à se parler dans les communautés. Oui, mais enfin, je trouve que ça montre mal le point, en fait. Là, c'est juste, bah oui, je me doute bien que là, ça va pas bien se passer vu qu'on peut pas se parler.
Complètement d'accord avec toi, Flavie, sur ce point. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un vrai problème de... souvent, en fait, avec les théories du vide fertile et compagnie, on dit que, tu vois, une position, une proposition, le propos d'un jeu doit émerger sur des règles. Mais jamais les règles ne doivent t'obliger directement à jouer ce propos ou à l'incarner. Et ben là, c'est le problème. C'est qu'on a une règle ici qui nous oblige à jouer... De façon en adéquation avec le propos. Alors que c'est pas ça, logiquement. Logiquement,
et puis c'est surtout que le propos, ce qu'il dit, c'est que même si on se parle, on n'arrivera pas à faire qu'il se passe quelque chose de bien dans la communauté.
Ouais.
Sauf que là, on se parle pas.
Donc,
ça va créer pour moi, en plus, au-delà du fait, parce que moi, du coup, cette position intenable de jouer un dieu avec des choses là, que je crée mais où j'ai pas le droit de m'y intéresser, va faire qu'en fait, je ne vais pas m'intéresser au jeu.
Complètement.
Je vais rester à côté, ce qui me frustre énormément, parce que dans ce genre de jeu, normalement, je suis à fond, quoi. Et du coup, je vais me prendre plein de points de mépris en me disant que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc, je me mets à pourrir les autres joueurs parce que, soyons honnêtes, je m'ennuie ferme. Et je vois bien, en fait, que, évidemment, le fait qu'on puisse pas se parler, oui, il va rien se passer, et oui, ça va mal se passer, mais ça me saoule. Et le fait qu'on puisse pas se parler va aussi m'enlever un des plaisirs que j'ai dans ce genre de jeu. Et ce plaisir, c'est de pouvoir dire à l'autre oh, « c'est trop bien ce que t'as fait !» Tu sais, de pouvoir rebondir « Ah, tu pourrais même rajouter ça !» Et l'autre, évidemment, peut dire « Ah ben non, je voulais plutôt aller faire ça !»
Ça s'appelle des mécanismes d'approbation, voilà. Et de proposition.
Et là, ça me manque. Alors, on peut dire « Oui, il y avait quand même des mécanismes autour de la table, on pouvait devoir sourire, t'avais quand même le mépris. » Oui, mais la personne en face ne sait pas exactement ce qui me dérange. Et il y a même un moment où, du coup, on a fini par aller contre les règles, quand Romaric a décidé de dire « Bon, bah, je crée la bombe atomique », on le regarde, fait « Ben non !» Tu peux pas
non,
faire
non,
ça.
Non. Ah oui, si, vous m'avez dit non.
On t'a dit, ah bah non, tu
vrai,
fais pas,
ouais.
Fais
au début,
pas
vous
ça.
Vous vouliez pas le dire et je voyais faire la tête et ouais. Me tracher après sur mes autres projets. Tracher
ouais.
En... Et je comprenais pas pourquoi je me faisais tracher en fait.
Et du coup, on a fini par te dire, mais on est dans un monde à moitié médiéval et tu veux créer la bombe atomique, mince quoi, merci pour la couleur quoi. D'autant que.
Et pourtant, c'est moi qui avais raison.
Oui. Et en plus, en début du jeu, par contre, il y avait une règle que j'avais trouvée vraiment cool qui disait, ça plaçait un curseur de fantastique que j'avais trouvé cool. Et pour moi, en fait, t'allais hors de ce curseur, en fait.
Oui, l'élément de contrat social dont on avait parlé, effectivement, on disait que tout élément comme ça était intéressant. Le fait qu'au départ, on se mette d'accord. En fait, on se met d'accord en amont sur ce qu'on veut, en fait. Et donc, au final, j'avais fait une trahison par rapport au curseur choisi et par rapport au contrat social.
Mais aussi
sauf
parce
que vous
ne
pouviez
que
pas
me
le dire
frustrée.
Parce que vous n'aviez pas
exactement.
Le droit.
Exactement.
Et
donc,
frustrée,
ouais. Moi, j'ai passé en fait un moment extrêmement frustrant dans ce jeu et pour la première fois depuis que je joue au jeu de rôle, la première fois c'était un playtest mais qui était raté. Pour la première fois, j'ai demandé à ce qu'on arrête le jeu.
Et donc on a arrêté la
partie. Je ne pouvais plus en fait, c'était intenable pour moi d'être face à un truc. Soit il fallait que je m'y intéresse et je m'y intéressais vraiment à ces dilemmes, soit dans ces cas-là, je ne pouvais pas parler aux gens, je n'avais pas le droit de m'y intéresser, auquel cas ça n'avait pas d'intérêt pour moi.
Et alors là, Tommy nous regarde un peu effaré en fait, lui aussi, il est contraint de s'arrêter au moment où je lui dis ça,
il me dit merci.
Mais, ouais, on
mais il est
quoi.
Extrêmement déçu parce que ça n'a rien à voir avec la partie qu'il a faite.
Il disait
avant.
Même que c'était trop cool. Qu'on avait décidé d'arrêter parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup d'activités humaines dans lesquelles on n'osait pas dire on s'arrête. Il avait trouvé ça positif qu'on ait eu le courage à un moment donné de dire bon bah là les gars, je pense qu'on a fait le tour du jeu, on pourra pas y jouer, en tout cas pas comme ça, etc.
Et là Tommy se rend compte que quand il a joué, en fait, il a pas joué avec les règles, qu'ils ont directement fait de nouvelles règles et compensé. En fait, ils ont fait des règles autour de la table qu'ils
compensé,
ont l'habitude de faire.
Tu viens d'utiliser un terme très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est la compensation, Flavie ? Tu peux l'expliquer pour les auditeurs ?
Bah, c'est quand il y a un jeu qui est, qui nous plaît pas ou qui est mal fait, en fait, on enfin, va.
Ouais, quand les règles ne disent pas exactement voilà. comment faire système.
Comment faire le système, et ben du coup, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche, quoi.
On va ajouter quelques règles dans la base. Enfin, en tout cas, on va ajouter quelques règles dans son système pour compenser les règles présentes dans la base. Je vous rappelle qu'il y a une distinction à faire entre les règles et le système. Le système, c'est les règles telles qu'elles s'appliquent ce soir autour de la table, et les règles, c'est l'ensemble des propositions figurant dans la base du jeu. Donc là, on considère que l'ensemble de propositions qui figurent dans la base du jeu n'est pas suffisant pour pouvoir faire système, et donc on va décider de compenser. Donc, pour,
et donc, comme c'était une table qui avait l'habitude de jouer ensemble, bah, ils ont compensé avec les trucs qu'ils avaient l'habitude de faire ensemble.
Et notamment, ils ont mis de la musique.
Oui.
Élément très important.
Ils se parlaient entre eux.
Tout à fait.
Et déjà, bah, ça, c'est un point énorme. Et eux, ils ont décidé de ne pas rester du point de vue divin. Mais tout ça, c'est fait sans même qu'ils se posent la question. Ils n'ont juste pas du tout appliqué.
Et à aucun moment, ils ont regardé dans le PDF si ils avaient le droit de le faire ou pas. Alors que nous, comme on était dans un one-shot de la cellule, on a dit à Tommy, attends. Dès qu'on a un problème de règles, dès qu'on a un problème dans notre système, on va voir dans les règles ce qu'ils disent pour faire notre système.
D'autant qu'il y a aussi un truc que nous, on a fait, que eux n'avaient pas fait. Au début du jeu. On nous demande de lire, je crois, c'est 6 pages à 4.
Ah oui, on n'a pas parlé de ça.
6 pages à 4, à voix haute, chacun se passe le livre et lit un paragraphe.
Ça, je suis sûr que c'est une règle qui n'a jamais été respectée.
Ça, ils ne l'ont pas fait. Du coup, ils ont pas connu toutes les règles. Et donc, du coup, eux, ils ont parlé, ils ont joué les personnages qu'ils créaient. Et donc, du coup, eux, ils se sont marrés, ils ont eu bien raison. Parce que nous, en fait, on l'a fait déjà, ce truc de la lecture. Alors au début, je m'étais dit, oh, ça va être cool. Je ne pensais pas qu'il y avait 6 pages à 4. Ça va être cool. En fait, les règles vont être résumées. Il va y avoir un petit côté ritualisation, d'autant qu'on est censé être des dieux. On va se passer ça comme un livre de psaumes. Et en fait,
ça a tourné à l'épreuve de lecture. Affreux. Moi, j'arrivais même pas à lire.
Il y a même Tommy qui a dit que ça lui avait rappelé les moments à l'école où il devait lire devant tout le monde. Et je vous jure, 6 pages à 4 où chacun lit un paragraphe, sachant qu'en plus à la table on a un dyslexique qui flippe sa race quand il doit lire.
Grave.
Et du coup, moi je sens bien que du coup je vais finir à me taper les 6 pages à 4 à lire toute seule à voix haute. Et je dis, ah non, c'est pas possible quoi. Donc on l'a fait quand même, je pense, dans au moins un quart d'heure. On avait même pas fini. On avait fini la première page à 4 et là j'ai fait, ah non, on va pas continuer comme ça quoi. C'est pas possible. Et donc du coup, Tommy nous a résumé les règles en fait.
Ouais, exactement. Et il les a très bien résumés, puisqu'après lecture du PDF, parce qu'après la partie, quand même, on a voulu encore débriefer, j'en reparlerai après. Et on a relu le PDF ensemble, on a vraiment décortiqué le truc et on a dit non,
parce
y a
que
pas
si tu demandes de faire ça à des gens, tu laisses pas 6 pages à 4 à lire, quoi. Non, quoi.
Donc voilà, les présupposés dérangeants autour des projets, c'est-à-dire que le fait que le jeu dise bah, c'est bon, mais certains auront à en souffrir, le fait qu'on puisse pas communiquer entre nous, etc., fait qu'au final, les projets, quand ils aboutissent, et ben à la fin, on oublie même carrément de décrire comment ils se finissent.
On oublie, et il y a même certains projets sur la table qu'on oublie parce qu'ils ne nous intéressent plus.
On ne savait même plus ce que c'était.
Ouais.
On ne savait même plus ce que c'était, à quoi correspondait le dé, quoi. Ça, c'était vraiment gravissime.
Et c'est dommage parce que sur le jeu, il y a quand même un truc chouette. Vous voyez, je comprends qu'en n'appliquant pas les règles, ils se soient amusés parce qu'il y a un côté beau, il y a un paquet de cartes où on sépare les 4 couleurs, qui est chaque couleur correspond à une saison. Et on va jouer du coup The Quiet Year, on va jouer l'année tranquille. Et quand on retourne les cartes, en fait, il se passe quelque chose. Chaque carte correspond à quelque chose qui arrive. Donc, c'est un peu le meneur de jeu, ce paquet de cartes.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est très intéressant.
Et c'est intéressant, mais il s'avère que quand on faisait autour de la table, vu qu'il y a déjà les projets auxquels on s'intéresse, quand on retourne la carte, en plus, c'est à la fin du moment où on parle. Donc, ça ne va avoir aucune incidence sur les projets qui sont autour de la table.
Ouais, on a déjà fait, en fait.
Les questions
que nous posent les cartes, on y a déjà répondu en amont.
Et en fait, ce truc qui aurait pu être vraiment cool et que j'aimerais revoir dans un autre jeu, ne sert à rien. Ouais. Et en fait, il y avait des trucs qui avaient l'air intéressants. Mais ça ne sert à rien. Alors, pareil, dans la partie de Tommy, du coup, quand il retournait la carte, il continuait à jouer, à faire pas mal de choses. Et eux, du coup, ça a vraiment amené des choses aussi parce qu'ils pouvaient parler entre eux. Mais nous, en fait, comme du coup, on a respecté la règle, nous, il ne s'est rien passé. Ce paquet de cartes ne servait à rien. Alors que c'était tellement beau, je voyais cette année, ce Quiature est en face de toi. C'est un paquet de cartes. Mmh. Et les saisons sont là,
et
elles vont t'apporter leur lot d'aubes.
La dernière carte qu'on va retourner, c'est le roi de pique. Qui signifie l'arrivée dans le jeu de personnages dont on ignore tout, mais qui ressemblent quand même très très fortement à... Enfin moi, en tout cas, nous, en tout cas, ça nous a beaucoup fait penser...
Les chevaliers du Gif, je ne sais plus, les...
Je ne me souviens plus.
Pas les chevaliers du Gif.
Et là, malheureusement, je ne peux pas faire la recherche. Je sais plus.
Mais bon, il s'avère que moi j'ai directement fait la blague, voilà. Fait la blague en disant ah il y a les White Walkers qui arrivent. Ouais, là, ça. Tommy m'a directement repris en disant non, c'est pas forcément les White Walkers, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais il s'avère que The Quiet Year finit avec l'arrivée de.
Et en fait,
ça s'appelle
The Quiet Year parce qu'en fait, on joue le roi de pique hiver. Alors attends, justement, j'essaye de voir. Non, j'arrive pas à trouver. Bref, donc justement, ce Quiet Year, c'est l'année tranquille dont on dispose avant l'arrivée justement
et
du roi de pique.
Et qui ne va pas vraiment être tranquille, du coup.
Et je peux vous dire que ce qui est génial, c'est qu'en plus, les questions qui sont posées en fonction des cartes montrent vraiment que Avery Alder a vraiment fait un effort d'aller chercher dans la cartomancie tous les éléments en fait, liés à la cartomancie, quoi.
Ouais, puis il y a une gradation. Plus on avance dans l'année, plus les choses proposées vont être dures. Enfin.
Et comme tu le disais, ça joue le rôle du MJ dans la mesure où.
Moi, j'ai vu ça et moi je me suis dit ça va être trop bien.
Ce sont finalement les cartes qui posent les questions qui doivent faire maelstrom, questions qui doivent inciter les joueurs à se poser des questions sur des situations possibles. Et donc c'est vraiment bien vu de ce côté-là.
Mais bon, dans le jeu, ça n'a servi à rien. Quoi.
Mais dans le jeu, malheureusement. On l'avait fait avant, en fait.
Quelle tristesse. On utilise déjà ça pour les projets. Et
peut-être que, comme le disait Tommy, c'est une béquille. C'est-à-dire que nous, on l'avait fait de façon intuitive au moment où on nous demandait de faire la carte, de faire les pénuries, etc. Parce que nous, on est des joueurs expérimentés, tu vois, de ce genre de jeu. Mais que pour des joueurs et des joueuses qui ne jouent pas, qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, j'ai lu notamment dans les commentaires sur Facebook suite à l'annulation du podcast qu'il y a pas mal de gens qui disent « Moi, je le sors pour jouer avec des débutants. » Et je me demande si les cartes, en fait, n'aident pas comme ça aux débutants à créer des trucs, tu vois. Donc, si ça se trouve, nous, on s'en est pas servi, c'était pas nécessaire. Et du coup, ça a fait un peu inutile, quoi. Ça a été un peu un artefact.
Moi, je trouvais esthétiquement, c'était beau. Hein, cette année dont on retire des cartes, dont on retire des moments, en fait, esthétiquement, c'est magnifique. Ce paquet de cartes qui descend sur la table, je trouvais ça hyper beau.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit tout ça, dans le podcast la semaine dernière, on sort d'une partie où on est frustré et donc le ton qu'on emploie est pas du tout posé comme celui qu'on emploie maintenant.
Je m'énerve.
On est complètement énervé, complètement passionné, on se fâche à plusieurs moments, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà, on est vénère et du coup en fait où je voulais en venir avec ça. Oui, à un moment donné, ça m'énerve et je vous pose la question, je vous dis
t'arrêtes
mais bordel
de merde. T'arrêtes pas de dire mais qu'est-ce que t'es sûr qu'il y a que ça.
Pourquoi, voilà, je vous pose la question, j'arrête pas de vous poser mais pourquoi ce jeu ne marche pas? Pourquoi est-ce que ce jeu...
Moi, je me rappelle même un moment où je t'envoie chez, je dis « Mais enfin, je te l'ai dit, pourquoi ça marche pas ?»
C'est tous les arguments qu'on vient de dire, là. C'est pour ça que ça marche pas. Et moi, j'arrive pas à me dire que c'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et c'est là, et c'est pour ça que ce podcast, je le trouvais magique. C'est là que je fais une découverte, mais vraiment...
Tu comprends pourquoi t'aimes pas ce
genre de
jeu.
Je comprends pourquoi j'aime pas ce genre de jeu, dans lesquels on est en posture d'auteur, dans lesquels on plaide pas pour des personnages et où les mécaniques tournent sans que la fiction soit nécessaire. Et où on me demande comme ça, presque le pistolet sur la tempe, de raconter quelque chose.
Parce
qu'à
ce moment-là,
t'es
trop mignon, tu dis, mais qu'est-ce qui vous avait,
qu'est-ce qui vous a plu?
Et non, on t'explique, ben, c'était trop bien, on a créé tous les deux, et puis on s'est mis à rebondir sur les idées l'un de l'autre, et c'était trop cool.
Et là, je comprends, en fait, que ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que leur kiff en esthétique, ce qu'ils adorent, dans le fond, c'est quand des choses presque absurdes émergent sur du chaos déjà. C'est quand
c'est des choses belles.
Voilà, quand le hasard du hasard du hasard, excuse-moi, je donne ma propre formulation, tu reformuleras ensuite. Oui. Donne lieu à des choses surprenantes, belles et compagnie et compagnie. Et moi, je réalise que j'ai pas du tout cette sensibilité esthétique là. Que moi, en fait, ce que j'appelle beau, c'est des choses qui sont très ordonnées, très cohérentes, dans lesquelles il y a beaucoup de sens. Et là, on retombe sur le nom de mon premier jeu. Et c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est que les choses que je fais, les choses que je dis, les propositions, la direction artistique, la fiction, le contenu fictionnel, il ait du sens et qu'il soit cohérent. Ce qui est complètement incompatible avec la vision esthétique de celui qui veut au contraire un foisonnement aléatoire
sur
lequel trouver
du mot. Mais oui, mais parce que ça sera cohérent à la fin.
Et du coup, j'ai compris un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui aiment une certaine type de cohérence et qui ont cette sensibilité-là. Je vais le faire en sens, hein, les cosmos. Des gens qui aiment la beauté des grands espaces froids, bien rangés, bien organisés, etc. Et puis, il y a les chaos. les gens qui aiment justement toutes ces choses merveilleuses qui émergent du n'importe quoi, etc. Ces petits moments de sublime au milieu d'un foutraque extraordinaire. Et du coup, je comprends un truc de fou. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, des gens comme Adrien Cahuzac, qui ont une sensibilité esthétique qui est un peu similaire à la mienne, des gens comme Darky, qui ont une sensibilité esthétique, ben, ils n'aimeront pas non plus, je pense, ce genre de jeu. Et que donc, du coup, il faut écouter les gens qui aiment ce genre de jeu et qui ont cette sensibilité esthétique-là. Alors bon, après, Flavie, tu vas me dire, toi, j'ai l'impression que tu as les deux sensibilités esthétiques.
Moi, je peux jouer un peu à tout. Hein.
Voilà. Alors que moi, pas du tout.
Moi,
quoi.
Je suis multitâche, moi.
Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui, vraiment, ce qui les fait triper, c'est la cohérence, etc. Et du coup, ça me permet de comprendre enfin pourquoi moi, je ne peux pas toujours, de façon efficace, jouer à certains jeux indépendants, comme par exemple ceux de Thomas Meunier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, c'est ce foisonnement-là, le folklore de Thomas Meunier. C'est... D'ailleurs, quand il décrit ses jeux, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est un foisonnement incessant. Tu vois, c'est toujours des trucs en clair-obscur, c'est toujours des oxymores, c'est toujours des opposés, etc. C'est le bordel. Et ça me plaît pas. Moi, j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est cohérent, quand ça a du sens, quand la direction artistique est claire.
Et je me rappelle que dans le podcast,
de comprendre ça,
à un moment, parce que moi j'ai toujours joué avec des gens un peu comme toi. Moi je suis contente quand il y a un Tommy qui arrive aussi, parce qu'on peut faire une création comme ça avec Snilo qui est très belle. Hein. Moi j'ai passé un très bon moment, comme je l'ai dit, à créer cette carte, à créer ce monde avec lui. C'était vraiment très très chouette. Comme avec Christophe et Sylvie. Hein. Moi par exemple pour The Final Girl, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien jouer avec eux. Et dans le podcast. Je parle de quand on a testé ton dernier jeu dont je ne dirai rien.
Pour l'instant,
c'est pas Vadémécom.
Tout à fait.
Et qu'à un moment, en fait, on a joué avec Thomas et que moi, comme d'habitude, hein, jouais un perso un peu chaos, comme tu dis là, qui crée des choses poétiques, etc. Mmh. Et lui, il jouait un militaire.
C'était un commandant.
Commandant.
Il était là pour
organiser. Et donc du coup, lui, c'est pareil, quoi. Enfin, il pourrait pas jouer à ce genre de jeu. Il regarderait en faisant, mais qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Flavie, quoi. Et donc voilà. Et donc c'était très chouette de comprendre enfin pourquoi, quand je te proposais ce genre de jeu, tu me regardais du genre, mais qu'est-ce que tu me proposes ? Parce que maintenant, ouais. j'ai compris un truc sur toi aussi.
Ouais. Mais c'est incroyable de voir comme, tu vois, toi, dans Sens, je pense à Sens parce que forcément, Thomas et toi, ça me fait penser aux parties de Sens parce que vous étiez aussi opposés. Lui, c'était vraiment le fan de Miphos et toi, le fan de Wilfried et de Solipsis. Donc, on retrouve encore cette opposition Cosmo et Chaos, tu vois. Enfin, je trouve ça super intéressant et j'étais hyper heureux de faire cette découverte parce que enfin, je pouvais me dire... Ouais, voilà, il y a ces deux sensibilités qui existent dans la nature. Il n'y a pas une erreur mécanique, il n'y a pas une erreur technique.
Ce qui était génial, c'est
juste une question de sensibilité.
Hors podcast, on a même eu du coup une discussion sur la poésie. Ouais. Parce que
je disais que tu étais un enfant et moi un vieillard.
Ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est Aristote.
Et moi, je parlais à Rome, je disais, ah, mais non, mais moi, le jour où j'ai découvert les surréalistes et j'ai découvert Éluard et tout ça, j'ai découvert un truc, moi, un truc qui était important. Voilà, et là, Rome me dit, mais moi, j'ai jamais pu rentrer là-dedans. Ouais,
Zazie dans le métro, moi, je sors du métro, mais je prends pas le métro avec Zazie.
Et voilà, je dis, ah, mais non, mais c'est trop bien, là, il y a un petit côté.
Bon, ceci dit, moi aussi, et pour défendre Adrien et moi à la fois, Adrien et moi, on aime beaucoup aussi l'absurde. C'est-à-dire, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on a le sens esthétique de l'absolu.
Attention, parce qu'il y a
une
grosse différence entre quand on crée nous, c'est pas de l'absurde.
Mais non,
tu dis que c'est de l'absurde, mais l'absurde est une façon qu'ont les gens très rangés de rajouter un truc complètement what the fuck dans un univers très rangé. C'est ça l'absurde.
Tellement raison.
Alors que là, moi, je te parle pas d'absurde.
Tout à fait,
je te parle de beauté, d'un esthétique très particulier. Je suis désolée, Éluard, c'est pas absurde. Hein.
C'est vrai, t'as raison. C'est de la poésie. En fait, c'est ça, c'est la différence entre la poésie et le texte, j'allais dire scientifique, ou le texte d'analyse. Moi, ce que je trouve beau, c'est les podcasts de la cellule, dans lesquels on analyse, Alors que pour d'autres, ce ne sera pas de la poésie, les podcasts de la cellule, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec Fabien sur certaines positions, tu vois, sur la poésie et tout ça. Bref, en tout cas, il y a une porte là dans ce podcast qui s'est ouverte pour moi, clairement. Une vision des choses et de la sensibilité, et de me dire maintenant, quand j'aurai ce problème-là dans un jeu, j'irai plus chercher dans les mécaniques à essayer de trouver une justification forcément mécanique. Il y a des moments où je dirais, je suis désolé les gars, j'ai pas la sensibilité pour ça, donc je vous donne la parole. Et d'ailleurs, dans ce podcast, c'est ce que j'ai fait à un moment donné.
Où tu as dit, ok, là, j'ai compris, on arrête.
J'en chie, moi, j'arrête mes analyses et tout, j'arrête de m'énerver et je vous donne la parole. Et c'est là que vous avez continué à dire, non, mais même nous qui pourtant sommes familiers avec ce genre de jeu et qu'aimons ce genre de jeu, on n'y arrive pas.
Il y a une promesse qui n'est pas tenue dans ce jeu. Il y a vraiment une promesse qui n'est pas tenue, c'est on crée quelque chose de magnifique et il n'y a pas moyen de jouer avec.
Alors, le jeu ou la partie ? Et là, on va rentrer justement dans la deuxième partie de ce podcast.
Oui, parce que là, le podcast s'arrête. Et d'ailleurs, je fais une petite boutade à Romaric parce que ces podcasts sont toujours à rallonge. Et je te dis même que tu as tendance à faire des podcasts avec la fin de Tolkien.
Exactement. Et en fait, ce que je dis, c'est attention, attention. Nous avons testé ici une partie du jeu. Et donc, toutes les analyses, tous les propos que nous soutenons avec passion, parce qu'à ce moment-là, on est encore dans le feu de l'action et c'est très passionné, hein.
C'est le principe de One Shot. Hein.
Voilà, c'est le principe de One Shot.
Ça s'appelle pas 3 semaines, ça s'appelle pas 28 semaines plus tard.
En plus, on dit qu'on est d'autant plus passionné que le jeu nous a frustrés. On n'avait pas le droit de se parler. Et là, dans le podcast, justement, on a le droit de s'interrompre, on a le droit de se parler. Donc, on est d'autant plus énervé, entre guillemets, énergique que voilà. Donc,
ce sera un thème de podcast tellement bon, ça.
Alors,
28 jours plus tard, quoi.
Non, pitié, parce que moi, ce que je veux, justement, c'est de la spontanéité et tout. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Tu vas te débriefer une partie, je trouve. Il faut que tout soit dit, quoi. Enfin, y compris qu'on partage comme ça le maelstrom des gens en participant au moins à la fin de la partie, au débriefing de la fin de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a jugé ? Est-ce qu'on a jugé le jeu ou est-ce qu'on a jugé la partie ? Et en fait, on en revient à la conclusion qu'on a jugé la partie. Parce que, avec les mêmes règles, notre ami Tommy, avec la compensation qui fut la leur au moment où ils ont joué, a réussi à faire une excellente partie de The Quatuor. Donc on dit, fiez-vous à Tommy aussi. C'est-à-dire, il y a aussi des gens, je pense, qui vont prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Et je précise, dites-nous dans les commentaires, à la fin du podcast, dites-nous dans les commentaires ce que vous faites autour de la table pour que ça se passe bien, est-ce qu'on a mal fait, et compagnie. N'hésitez pas à nous dire ce qui s'est mal passé dans cette partie. Ça nous intéresse. Et c'est comme ça que...
Et les micros s'arrêtent.
Et puis les micros s'arrêtent. Et puis on se pose la question encore, mais qu'est-ce qu'on doit jouer ?
Moi, je pars travailler.
Toi, tu pars travailler. Nous, on se pose la question avec Tommy, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu ? Parce qu'en fait, nous, on avait l'impression... Alors attendez, ça va faire un petit bruit de métal, parce que je relève un peu mon micro, voilà. Un peu silentilien, ce bruit. On avait l'impression que...
La tête de pyramide, Karine.
On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il nous manquait des infos, que c'était pas normal. Qu'il manquait des règles.
Et d'ailleurs, dans le podcast, si mes souvenirs sont bons, je dis dans le podcast qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les règles pour jouer. Et que pour moi, à la table où elle a testé le jeu, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est elle, en fait, ils ont dû avoir des règles qu'ils ont l'habitude de mettre en place.
Ouais, mais
qu'elle a oublié
d'écrire.
Ils n'écrivent pas parce que souvent, en fait, quand on joue toujours avec les mêmes gens, en fait, on se rend plus compte des règles qu'on a.
Des petites routines qu'on a.
Des petites routines qu'on prend autour d'une table. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quand on teste un jeu d'aller. Alors, je sais pas. À ce moment-là, je me pose la question.
On a plein de suppositions. En fait, voilà, à ce moment-là, on fait plein d'hypothèses. On est dans le et si. Et si ils avaient oublié quelque chose. Et si machin, machin, machin.
Notamment sur le fait qu'on ne puisse pas se parler, je ne comprends pas.
Et là, je fais une recherche sur Internet pour comprendre, parce que moi, j'aime bien comprendre, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer avec ma sensibilité esthétique. Je me dis, mais c'est quoi, pourquoi ? Je fais une recherche sur Internet et je tombe sur une souscription de The Quatuor qui date, d'ailleurs souscription dans laquelle figure encore l'ancien patronyme. Donc à ce moment-là, je ne peux pas encore savoir qu'elle a changé de nom. Et à côté de cette souscription, une vidéo qui vient d'un hébergeur qui s'appelle Vimeo, qui présente le jeu. Et la stupeur, le jeu qui est présenté dans cette vidéo n'est pas du tout identique au jeu présenté dans le PDF en français. Et là, je deviens blême, je dis à Tommy, je m'en souviens, parce que toi, t'étais parti bosser, on était au coin du feu, nous. Je dis à Tommy, là, il va y avoir un problème avec ce podcast, les gens vont nous dire qu'on n'a pas joué au bon jeu, etc. Parce que là, le jeu qui est proposé dans la vidéo, que je vous invite à aller voir vivement, n'est pas du tout le même. Tout d'abord, la vidéo présente le jeu comme un map gaming. Mais moi, c'est pas la même chose de me dire un map gaming et de me dire qu'on dessine une carte déjà. Première erreur, à mon avis, de traduction. Un map gaming, c'est un jeu de cartographie. C'est un jeu dans lequel on est un cartographe. Du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a une position à moitié omnisciente. Bah oui, on est tel un cartographe en train de tracer une carte. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas évident. On nous dit que dessiner une carte dans le PDF, c'est pas suffisant. Il fallait préciser cette position de cartographe.
Mais est-ce que c'est la traduction qui est pas bonne ou est-ce que c'est écrit comme ça ?
On n'en sait rien. Et alors, pire encore, la vidéo nous précise explicitement qu'en tant que joueur, on doit jouer les leaders des communautés qui se réveillent après l'apocalypse. Et le jeu n'est plus présenté comme la fin d'une civilisation moyenâgeuse.
Mais comme un univers post-apocalyptique.
Mais comme un univers post-apocalyptique.
Et on relit du coup, parce que les gars m'appellent, donc je descends. Et là, je dis, non, attendez, sors-moi le truc là, Tommy. Et à aucun endroit dans le PDF, il y a marqué univers post-apocalyptique. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais vous jouez après la chute de votre civilisation. Pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que vous jouez dans un univers post-apocalyptique. Ce n'est pas du tout la même chose, quoi.
Alors du coup, là, il y a un truc qu'on comprend direct, c'est que si on... Et alors, dans la vidéo, on voit aussi que ces leaders se passent un bâton de parole.
Et le bâton de parole, moi, au moment où vous montrez ça, je rentre dans une grosse colère.
Ouais, toi, tu te mets complètement en colère.
Ça s'entend peut-être pas trop dans le podcast, mais je rentre dans une grosse colère. Je suis là, mais au lieu de dire qu'on n'a pas le droit de...
Ça s'entendait, parce qu'on peut en parler au passé.
Voilà.
D'ailleurs, si vous avez le podcast sur votre PC, j'aimerais bien que vous l'effaciez, s'il vous plaît. Ce serait vraiment rendre service à
Avril
de faire en sorte que ce podcast soit effacé, y compris de vos ordinateurs. Ne le partagez pas, etc. Ne faites pas genre, ouais, moi j'ai le podcast super secret de la cellule. Non, supprimez-le vraiment, vous me feriez plaisir et c'est ainsi que vous respecteriez le plus la volonté des membres de la cellule. Donc merci de le faire. Et on peut continuer. Donc là, du coup, toi, tu te mets en colère.
Je suis là, mais au lieu de dire qu'on n'a pas le droit de se parler, dire vous jouez avec un bâton de pluie, ça aurait été compliqué à mettre en place. Et là, vraiment, je suis en colère parce que je me rends compte que le bâton de pluie, ça a vraiment du sens. Et en plus, c'est la ritualisation dont j'ai parlé, que j'avais ressentie, où je m'étais dit, ah, c'est pour ça qu'il faut lire les trucs comme les psaumes, etc. Il y a une ritualisation dans le bâton de pluie qui fait qu'on va devoir s'écouter, se parler. C'est pas du tout la même chose que de dire vous attendez chacun votre tour. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Et là, du coup, je dis, mais alors c'est comme ça qu'ils faisaient autour de la table. C'est comme ça en fait qu'ils jouaient. Pourquoi c'est pas marqué dans les règles?
Et puis le fait que ce soit du post-apocalyptique, excuse-moi, mais ça oriente très largement les pénuries.
Puis
du
là,
coup,
du
on
coup...
peut plus dire pénurie de pastèque.
Et puis là, du coup,
pénurie d'essence, pénurie d'eau.
Du coup, c'est plus une, on n'est plus une civilisation qui était basée sur la lumière. Là, du coup, t'as envie de chercher de l'eau.
C'est post-industriel. Bah oui. Enfin, pour moi, post-apocalyptique, ça. Alors après, je sais qu'il y a des post-apocalyptiques qui sont pas post-industriels. Hein, ça, je sais bien. Mais ça sous-entend des tas de choses. Et en plus, et à ce moment-là,
et puis ils portent des masques à gaz dans le trailer, il porte des masques à gaz.
Avec Tommy, je me souviens, on regarde les illustrations et là, on se rend compte que derrière le trait fébrile des premières illustrations avec les moulins et tout, en fait, il y a des guns, il y a des tanks. On n'avait pas fait gaffe. Honnêtement, les illustrations, on avait lu la base, Tommy avait lu la base, mais apparemment, il n'avait pas vraiment fait attention aux illustrations.
Et nous, on a juste regardé la première et qui m'avait beaucoup plu et qui avait directement orienté. Comme quoi, le pouvoir des illustrations. Hein.
Ouais.
La première illustration, c'est celle que j'ai vue, elle a directement orienté mon imaginaire. Et comme je n'ai pas vu les autres, je ne me suis même pas posé la question.
Et Tommy me dit, mais c'est dingue parce que moi, en fait, je le voyais comme il y avait des illustrations avec des tanks et des illustrations avec un moulin, ben, je le voyais comme une invitation à faire n'importe quel type de civilisation. Pas uniquement une civilisation industrielle.
Oui, en tant qu'eux, ils n'avaient pas du tout joué post-apo industriel non plus. Ils avaient joué, je crois, sur une île.
Tu disais, ils ont des masques à gaz tout à l'heure, Fly, mais ils ont aussi des sacs à dos.
Ouais,
ils ont tout un attirail. Ils ont des lampes de poche. Ils ont dans la vidéo, c'est vraiment impressionnant.
D'ailleurs, elle est très bien faite.
Elle est superbe. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi ce que je disais dans le podcast, c'est que cette vidéo m'a complètement inspiré. La musique est magnifique. Et là, du coup. Quand tu lis, ce que j'expliquais dans le podcast, c'est que si tu vois la vidéo, que tu télécharges le PDF, mais là tu fais une toute autre partie, d'une toute autre qualité que celle qu'on avait débriefée dans la cellule. Et donc je dis à Tommy, mais c'est scandaleux. Avril Adler va avoir la peau va avoir une critique de son jeu ultra négative par la cellule, alors que si ça se trouve, c'est un super bon jeu et que ce qui merde, c'est le PDF et la traduction.
Et là, nous, on n'a pas lu du coup la version américaine.
La version anglaise, on n'en sait rien.
Donc on ne sait pas.
Et du coup, on reprend les micros. Vous vous rendez compte? Alors, je me souviens, c'était déjà un podcast long, mais après ça,
mais t'es déjà foutu de ta gueule en disant, ouais, de toute façon, tu fais des fins
micros,
à la Tolkien.
À la Tolkien.
Et là, c'est le retour de de
Saruman.
De Saruman
sur la comté. Donc, Trollolololo, Saruman.
Ouais.
D'accord.
En deux.
Non mais franchement, c'est hallucinant quoi. Ça change tout. Donc on reprend le truc et là toi tu dis ouais mais on sait pas. En fait au final on reprend le micro pour s'excuser en disant ben ouais mais on sait pas etc. Et quand je poste le podcast le jeudi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que non seulement ce PDF en français n'est pas, pour moi, ne mène pas une bonne partie. Que ce soit une bonne ou une mauvaise traduction, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne conduit pas de bonne partie de ce jeu. Enfin, en tout cas, il a de grandes chances de se planter. Enfin, je prédis que, franchement, il y aura au moins une partie sur trois qui sera un énorme fiasco, une partie sur trois qui sera médiocre.
Mais compenser, et une bonne compenser partie, ça ira.
Compenser. Mais franchement, je prédis que ce PDF, il ne donnera pas des bonnes parties. Et en plus, ce jeudi, hier, je découvre que le nom de l'auteur
n'est pas le bon.
Pas le bon. Et là, j'ai envie de dire, c'est la quatrième partie du podcast. C'est-à-dire qu'on a fait un podcast, on a repris les micros, et là, on reprend les micros à nouveau.
C'est la troisième partie.
C'est la troisième fois qu'on prend les micros pour parler de The Quiet Year.
C'était vraiment pas The Quiet Year.
C'est ce que je disais en plus à la fin du premier podcast. Je disais, oh bah, yo, c'était vraiment pas The Quiet Year.
C'est pas The Quiet Podcast non plus. Hein.
Donc, c'est pas The Quiet Podcast non plus. Donc là, bah ouais, moi, ma conclusion, en fait, pour ce podcast, on vous a bien résumé, je pense. J'espère que Tommy nous en voudra pas. On pouvait pas enregistrer ce deuxième podcast avec lui, malheureusement. Mais ma conclusion pour ce podcast, c'est bordel, ce PDF, 500 nuances de geek. Pitié, quoi. Faites un errata. Annotez-le, mettez un lien vers la vidéo, changez le nom de l'auteur. Enfin, voilà, c'est un minimum, quoi. Enfin.
Puis même pour les gens qui le téléchargent, quoi, ce serait peut-être bien qu'ils sachent qui a fait le jeu.
Bah ouais, voilà, tout simplement.
Enfin,
ouais.
Enfin, je sais pas, ce serait assez logique. Hein.
C'est hyper important. Et voilà, donc la cellule a fait cette erreur, mais tant que ce PDF ne sera pas modifié, au moins pour l'erreur du dead name, si j'ose dire, eh bien, cette erreur, elle sera reproduite encore et encore. Et c'est pour ça qu'on a voulu absolument que le podcast, notre podcast, soit supprimé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut que le nom soit supprimé du PDF et nous, sur la cellule, se permettre de laisser le faux nom, entre guillemets, même si, par ailleurs, le podcast était passionnant, il y avait des rebondissements, c'était passionné et compagnie. On ne pouvait pas faire cette faute. Là, c'est bon, j'ai dit le bon mot. Donc voilà, moi, j'invite vraiment 500 nuances de geek à réfléchir à sa position et à faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire à, même si ça fait mal, à supprimer ce PDF ou à l'annoter, parce que la traduction de Pierre Gavard-Coligny, à mon avis, a aussi ses qualités. C'est très difficile de traduire. Et elle a aussi ses qualités, et donc à moins l'amender.
Et une petite note de bas de page pour dire que c'est plus le bon nom, bah ça mange pas de pain, quoi. Voilà.
Et
du coup, voilà, nous, on a supprimé le podcast.
Moi, je suis super... Ouais.
Et moi, pareil, je suis très, très contente qu'on l'ait faite.
Oui.
Voilà. Une erreur, ça arrive, mais... Voilà, on peut en vouloir aux gens qui font des erreurs s'ils ne font rien pour la réparer après. Nous, on a fait, à mon avis, ce qu'on pouvait pour la réparer.
Puis moi, excuse-moi, mais à titre personnel, moi, je sors vraiment, j'ai appris plein de trucs au cours de cette histoire. Ce matin, parce qu'on enregistre évidemment jeudi soir, on est au terme de cette journée épique. Ce matin, quand déjà j'apprends le truc. Sur le coup, je n'ai pas compris tout de suite en fait, la gravité du truc. Et c'est quand Arjuna et Jay m'ont parlé du dead name et tout, parce que moi, évidemment, je ne suis pas sensibilisé à ces problématiques LGBT. Je ne suis pas concerné. Donc du coup, j'ai appris des tas de choses. Du coup, j'ai été me renseigner, j'ai été lire des articles, j'ai été voir des témoignages. Et du coup, ça m'a sensibilisé aussi en tant que média, entre guillemets, à ces problématiques-là que je ne connaissais pas. Donc au final, je pense qu'il y a moyen de faire de cette erreur vraiment une force à l'avenir pour les podcasts de la cellule et voilà et pour enfin en tout cas moi en tout cas j'en ressors vraiment j'ai appris des tas de choses voilà et je suis vraiment super content de ça à minima. Et puis bah le podcast bah finalement en refaisant ce podcast avec toi Fly, heureusement qu'on était que trois au final, heureusement qu'il y avait que Tommy, toi et moi dans ce podcast parce que c'est plus facile tu vois à refaire.
Oui, tout à fait.
Si on avait été, t'imagines si on avait été avec Adrien, Natacha et Fabien.
J'ai dit moins de gros mots que dans la première version, c'est déjà aussi bien pour moi aussi. Oui, c'est un de mes points cette année, une de mes résolutions du nouvel an, je me suis dit que j'allais essayer de dire un peu moins de gros mots dans les podcasts. J'en dis jamais dans mon métier, j'en dis jamais avec mes enfants et je me suis demandé si c'était pas un peu mon exutoire les podcasts si j'en balançais pas un peu trop, donc je vais essayer d'en limiter un peu dans les podcasts.
Voilà, voilà, voilà. En tout cas, moi, de mon côté, bah, je ne peux que réitérer mes excuses vis-à-vis, justement, d'Avry Alder. Vraiment, j'ai vraiment péché par pure ignorance. Sinon, vous pensez bien que ce podcast n'aurait pas été diffusé si j'avais été au courant de toutes ces problématiques et tout ça. Et j'espère que vous comprenez les décisions qui ont été prises, que vous comprenez qu'il n'y ait pas eu de podcast ce jeudi, même si vous le voyez, finalement, le podcast arrive, comme quoi tout vient à qui sait attendre, voilà. On fait ce qu'on peut. Merci à tous les gens qui ont pris... je sais plus à quelle heure je l'ai posté, le podcast, c'était genre à 9h du mat ou 9h30. Et direct, il y a des gens qui sortaient du pieu, quoi. Je pense à Sido Enfine, à Arjuna, à Jack, qui ont sorti du pieu pour nous prévenir le plus vite possible. Il y a des fois où je poste le podcast et après, je m'occupe de mes enfants toute la journée, je ne retourne pas sur Internet. Si ces gens n'étaient pas immédiatement intervenus, je me serais retrouvé ce soir avec un shitstorm pour le coup mérité et dont j'aurais oh là 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 là. Donc merci aux auditeurs de la cellule d'être aussi réactifs.
Et
merci,
moi j'ai autre chose aussi à dire. Ouais. C'est je remercie les gens. Oui. Parce que normalement je vais jamais voir les commentaires parce que j'en ai plus rien à faire. Et là bon quand on m'en a parlé en fait. J'avais en tête discussion de rôliste et je me suis dit ça va mal tourner.
Ça va partir en couille.
Et je voudrais remercier les gens qui nous suivent parce que merci de ne pas ressembler à ce qui se passe à discussion de rôliste. Vraiment, c'est cool. C'est très agréable à lire en fait.
Ça fait tellement plaisir d'avoir des auditeurs intelligents. Putain, super les gars quoi.
Donc,
C'est génial la façon dont les gens ont réagi à la fois, même la communauté trans, parce que j'ai vu aussi des petits cœurs passer de Céline Tonon. De Kaseo Kidam, de plein de gens dont Arjuna évidemment.
Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez apaisé et j'ai trouvé
apaisé,
ça chouette.
Vraiment.
Alors, j'espère que ce sera encore
génial.
Le cas demain quand,
voilà,
quand ce podcast va sortir.
Quand le podcast sortira, ce sera complètement l'enfer. Ouais.
Mais en tout cas,
voilà,
ce jeudi soir,
vous, vraiment,
c'est apaisé, c'est beau. Je trouve que les gens ont pu se parler et expliquer des trucs sur cette ligne, sur ce poste et je trouvais ça chouette.
Il y avait même de la pédagogie, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des gens qui étaient vraiment choqués par la décision d'arrêter et puis il y a des gens qui ont dit attends, lis cet article, regarde ce truc et tout. Non, c'est important, ils ont eu raison. Et au final, ça s'est super bien passé. Les gens ont compris. Enfin, c'était.
Et c'est
voilà.
Extrêmement. Je vous conseille d'aller voir le post parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant.
Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas supprimé la conversation Facebook parce que j'aurais pu aussi supprimer l'annonce Facebook du truc. Je l'ai pas supprimé parce qu'il y avait il y avait mon message d'excuse qui était resté là. Donc ça permettait aux gens qui voulaient savoir pourquoi le podcast n'était pas là d'y accéder. Et puis c'est en fait il y avait des gens qui commençaient à faire de la pédagogie. Et je me suis dit ce serait dommage de supprimer ce truc. Autant le laisser. Tant pis. Il y a une erreur dessus, mais on sait bien que Facebook les choses c'est un flux. Ça va passer quoi. Je veux dire ce post il va finir dans les limbes. Ce qui compte c'est que le podcast ait été supprimé et que ce podcast là, celui-ci qu'on est en train d'enregistrer soit fait. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà un petit peu comme pour vous décrire aussi la journée, les décisions, pourquoi ça a mis un peu de temps à se prendre. Merci Flavie d'avoir été avec moi pour ce podcast.
Bah de rien, il s'avère que j'étais
Tommy,
pas très loin.
Merci Tommy, même s'il n'est pas là ce soir, de nous avoir apporté The Quieture à tester. C'était vraiment une expérience intéressante, enrichissante. Moi, j'ai encore appris plein de trucs. Donc, c'était vraiment super passionnant. Je suis super content de ce podcast. Super content de comment tout ça se termine. Merci à vous. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À la semaine prochaine.
Salut.
Pour un prochain podcast.